Hommes et femmes connus et méconnus de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je parle au nom de la Compagnie de Savoie, qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des pays de Savoie, et notamment la culture, l'histoire, le patrimoine et le terroir, mais aussi de transmettre et de sauvegarder cette identité savoyarde. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un personnage qui a fait une action forte en mettant au point la téléphonie sans fil. Sans lui, la tour Eiffel aurait été démontée après l'exposition universelle de 1900, la télégraphie sans fil, puis la radiodiffusion n'aurait pas connu le développement que l'on sait. À l'heure d'Internet, ce créatif savoyard mérite bien qu'on lui donne un coup de chapeau. C'était un officier du service des télécommunications. C'est donc Gustave Ferrier. Il est né en 1868 à Saint-Jean-de-Maurienne, où son père, ingénieur au chemin de fer, travaille sur le chantier du Mont-Cenis. Gustave Ferrier réussit à 19 ans, après une seconde tentative, le concours d'entrée à l'école polytechnique et choisit à sa sortie l'armée du génie qui s'intéresse à la télégraphie électrique en plein essor. Il suit des cours d'électrotechnique, effectue des stages télégraphie militaire, se passionne pour les essais de transmission d'un jeune savant d'origine italienne, Marconi, et pour ceux du français Eugène Ducretet. Explorant le fonctionnement des antennes, des postes émetteurs et récepteurs, le capitaine Ferrier met au point en 1900 un nouveau détecteur permettant l'écoute au casque des messages télégraphiques. 2 ans plus tard, l'éruption volcanique de la montagne Pelée, en Martinique, lui fournit l'occasion de tester son matériel en établissant une liaison radiotélégraphique avec la Guadeloupe, distance de 180 km. Le câble reliant les deux îles ayant été détruit par la nuée ardente. Ami de la famille Eiffel, son père a œuvré sur des projets de lignes ferroviaires. Avec le concepteur de la Dame de Fer, il réalise des expériences au sommet de la tour métallique de 300 mètres, dont les résultats sont salués par les autorités militaires qui décident en 1904 d'installer une station radiotélégraphie contestée par certains intellectuels. La tour est enfin sauvée. La voie est désormais ouverte aux liaisons à longue distance et le commandant Ferrier, grand amateur d'innovation, crée des postes de TSF mobiles que l'on peut embarquer à bord de dirigeables ou d'avions dans le même temps. En collaboration avec les astronomes de l'Observatoire de Paris, il installe tout en haut de la tour Eiffel un nouveau dispositif d'émission de signaux horaires très utile aux navires pour déterminer leur position en mer. En 1908, il se rend au Maroc en pleine pacification, sous le commandement du général Lyoté. La télégraphie sans fil sert également à des fins belliqueuses. Face aux révoltes qui se multiplient à l'arrivée des troupes françaises, on installe dans l'urgence des postes de campagne sur plusieurs bâtiments de guerre, croiseurs, cuirassiers, venus exprès d'Algérie et qui vont pouvoir bombarder avec une meilleure précision les zones dites rebelles. De retour en France, 6 mois plus tard, l'officier se frotte les mains de satisfaction en apprenant que la ville de Paris autorise la construction d'une station radioélectrique militaire sous le Champ de Mars et malgré des problèmes de contretemps dus en particulier à l'inondation de 1910, cette station TSF s'avère bientôt comme l'une des plus performantes d'Europe. Le naufrage du Titanic dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 a un retentissement considérable, mais Gustave Ferrier est convaincu que si les derniers progrès de la radiotélégraphie avaient été mis en application à bord de ce paquebot transatlantique, ceci aurait certainement sauvé la totalité des passagers et des membres d'équipage. Il participe à la conférence internationale de Londres, organisée dès le mois de juin suivant, et au cours de laquelle des mesures concrètes sont adoptées pour améliorer la sécurité en mer. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Sans perdre de temps, le colonel Ferrier va s'entourer de techniciens militaires, ou civils, éprouvés comme lui. Tandis que l'ennemi avance et se rapproche dangereusement de la capitale, une station française capte début septembre des messages indiquant que les soldats prussiens, à bout de force, manquent de repos dans la Marne. Des observations aériennes confirment ce renseignement. Aussitôt informé, le général Gallieni, gouverneur militaire de Paris, réquisitionne tous les taxis parisiens, lesquels transportent plusieurs milliers de soldats sur le front. D'autres voyageront par le train. Pris par surprise, les Allemands reculent, une première bataille est gagnée. Avec sa petite équipe, Gustave Ferrier met au point de nouveaux postes à lampes triodes permettant de mieux diffuser la voix sur les ondes, d'échanger plus facilement. Matériel de pointe, pour l'époque, bientôt fabriqué à grande échelle, destiné à équiper l'infanterie et l'artillerie, la qualité du son s'améliore, la téléphonie remplace peu à peu la télégraphie. La guerre des tranchées s'éternise, avec son cortège de victimes, de blessés, de gazés. Alors, l'ingénieur savoyard développe un système d'écoute permettant de mieux localiser les galeries souterraines en train d'être creusées et que l'on s'empresse de faire sauter à l'aide d'explosifs. Le 11 novembre 1918, la station de la Tour Eiffel annonce au monde entier, par radiotélégramme, la signature de l'armistice. Nommé à l'inspection des télégraphies militaires, Gustave Ferrier est promu général de brigade en 1919, à l'âge de 51 ans. Travailleur infatigable, il poursuit avec ses équipes des essais de téléphonie sans fil. Le 8 février 1922, il accueille le secrétaire d'État au PTT, des personnalités, des artistes, dont Yvonne Printemps et les Guitry père et fils, dans la station du Champ de Mars, pour l'inauguration officielle des installations de la radiodiffusion. Élu à l'Académie des sciences, il participe activement à ses réunions de travail, signe de nombreux articles dans les revues scientifiques, donne des conférences en France et à l'étranger. Curieux de tout, le général suit avec intérêt les travaux de la Société météorologique, ceux de la Société astronomique et enseigne à l'École supérieure de l'électricité. En 1930, atteint par la limite d'âge, son maintien en activité est voté à l'unanimité par les parlementaires qui déclare que la France a encore besoin de lui. Présidant une commission chargée de faire des propositions au gouvernement sur la création d'un réseau de radiodiffusion publique, il recommande, à côté d'une station nationale, la mise en place d'antennes régionales et d'une station à destination des colonies. Début 1932, le Savoyard retrouve avec bonheur son pays natal à l'occasion du bal de la Houille Blanche, organisé à Chambéry, mais deux seront tour à Paris, le militaire français le plus décoré après Foch est hospitalisé en urgence au Val-de-Grâce, où le 16 février, il est emporté par une péritonite. Cette chronique est tirée d'un livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, et celui de Pierre Hoffmann, ces savoyards qui ont fait l'histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et surtout, à une prochaine fois.